Bienvenue dans le troisième épisode de Rembobiné. Donc je suis avec Samos.
Salut tout le monde.
Je suis avec le célèbre, l'infatigable Bot.
Bonjour, c'est le Bot.
Notre très cher Mamoun.
Salut, salut.
Et enfin Bastien Dudon pour sa première.
Salut à tous.
Vas-y, je te laisse la parole.
Au passage, c'était aussi la parole de Mamoun, hein, tu l'as pas précisé.
Oui. Et Baptiste, tu veux vrai, je t'ai pas demandé si tu voulais participer. Tu peux intervenir de toute façon.
On est
assez flexible là-dessus.
Bon, alors pour ce troisième podcast de Rembobiné, on s'est creusé la tête très très fort. On a réfléchi des heures durant. On a débattu longuement. Et à l'issue de ce débat très très intense et très très passionné, on a trouvé un sujet totalement innovant et inédit dans l'histoire du cinéma. Un sujet qui n'a été abordé que par quelques petits films oubliés et oubliables, qui n'est absolument pas un événement important de l'histoire d'un pays majeur du monde, à savoir la guerre du Vietnam. Donc voilà, le décor est planté, la guerre du Vietnam au cinéma. Donc... la guerre du Vietnam, sujet au cœur des enjeux de mémoire, avec tout ce que ça peut impliquer sur la façon dont on écrit un scénario et dont on fait un film. Parce que quand les films se tournent vers l'histoire, ils ont des choses à dire et ils ont des choses à montrer sur la société. Et c'est pour ça que ce sujet nous a paru intéressant.
À savoir que le Vietnam, en forme longue, la République socialiste du Vietnam, est un pays d'Asie du Sud-Est situé à l'est de la péninsule indochinoise. Pays classé 66e par ordre de superficie et 15e pays le plus peuplé du monde, avec environ 96,2 millions d'habitants en 2019.
Merci Mamoun pour ces précisions d'ordre historico-géographique qui vont vraiment nous aider dans le débat du jour, je pense.
Et pour commencer ce podcast, on s'est dit qu'une petite porte d'entrée pour aborder le sujet, c'est tout simplement de parler très brièvement chacun du film auquel on pense quand on pense à la guerre du Vietnam au cinéma. Donc je propose à Sam de nous donner son film pour commencer, à toi l'honneur.
Donc comme j'ai l'honneur de débuter, je vais citer sûrement le film le plus évident, donc Apocalypse Now de Coppola, un de ses grands chefs-d'œuvre, qui selon moi est marquant parce que c'est une véritable traversée, une entrée dans la psychologie d'un personnage et dans sa folie aussi progressive qui montre comment... l'expérience combattante et surtout dans cette guerre très spéciale, parce qu'aussi il y a un climat très spécial, une atmosphère très particulière, j'ai presque fini, pousse véritablement à la folie et à la confrontation face à sa propre altérité. Et je pense que c'est une thématique qu'on va souvent voir dans d'autres films, que vous avez peut-être évoqué, et que je la trouve particulièrement réussie dans ce métrage.
Merci Sam. Alors du coup, moi aussi, Apocalypse Now, ça me vient rapidement en tête quand on pense au Vietnam. Après, moi, mon film préféré, en tout cas, sur le Vietnam, je sais pas si c'est le plus réussi, mais c'est celui qui m'a le plus touché et qui a réussi à me captiver pendant quand même 3 heures. C'est The Deer Hunter, donc Voyage au bout de l'enfer. Pour moi, c'est surtout au niveau de... Enfin, je pense que c'est sans doute le film sur le Vietnam, peut-être avec Full Metal Jacket, où il y a les moments, les scènes les plus fortes, avec la plus grande tension qu'on ait pu voir sur cette guerre et sur cette période historique, parce que le film ne filme pas seulement l'enfer qui a été le Vietnam, mais également ses répercussions dans la société américaine. Donc voilà, c'était ma petite entrée sur The Deer Hunter.
Alors, du coup, je suis quand même assez honoré de pouvoir prendre la parole et du coup de pouvoir lâcher le film de Stanley Kubrick, parce que je suis un grand fan de Kubrick. Évidemment, je vais vous parler de Full Metal Jacket, c'est mon film auquel je pense, en tout cas lorsqu'on me dit « Guerre du Vietnam ». Et ce qui me marque dans ce film, c'est à quel point, tout le monde le sait, il y a deux parties dans ce film. La première, on transforme des jeunes garçons en des machines à tuer. La deuxième, on regarde ces Marines littéralement répéter leur entraînement, ce qu'on leur a appris, et ainsi accomplir leur devoir de machine à tuer. Et Kubrick arrive à peindre cette réalité comme cela du Vietnam, arrive à nous donner ce visuel de l'offensive du Tet, parce que je crois que ça se passe précisément en 68, et c'est tout bonnement grandiose. Je passe donc la parole à Mamoun.
Bon, on a déjà parlé de trois grands chefs-d'œuvre incontestables et incontestés de la guerre du Vietnam. Donc en ce qui me concerne, moi je vais parler d'un... d'un film qui a tendance à être peut-être sous-coté sur le thème. Il s'agit de Tropic Thunder, en français Tonnerre sous les tropiques. Ce film a fait polémique notamment à cause de Robert Downey Jr. qui était donc en blackface. Malgré cela, ce film a tout de même connu un accueil critique des plus respectables. Il a été acclamé de manière universelle. Et je pense que c'est notamment dû à... Et c'est notamment dû, à mon avis, aux scènes avec Tom Cruise chauve qui crie sur les combattants par téléphone. Et peut-être aussi, on a tendance à l'oublier, à Ben Stiller.
Merci beaucoup, Mamoun. On va passer à Eloi.
Et notamment à Ben Stiller, qui jouait... Qui était un acteur en échec. Et juste, il faut rappeler que ce film a commencé...
Déjà, Mamoun, là, tu me tombes dessus. Pardon. Et t'arrêtes pas de me dire ouais, que c'est long et tout. Au final, t'étais encore plus long que nous tous réunis sur Tonnerre sous les tropiques.
Pour conclure, le film débute sur une série de fausses bandes-annonces. Et pour moi, ça, c'était un move historique dans l'histoire du cinéma.
Ok. Allez, Eloi.
Et ouais, du coup, pour conclure ce tour de table, je voulais aborder un film qui est un peu différent de tous ceux que vous avez cités, qui sont tous des chefs-d'œuvre, mais qui est un film qui traite de la guerre du Vietnam selon un angle plus comique, avec un acteur éminemment comique, puisque c'est Good Morning Vietnam, avec donc Robin Williams, c'est un film de Barry Levinson. Et je trouve ça intéressant de voir que, comme c'est un film de 87, donc peut-être un peu plus tardif que la plupart des films qu'on vient de citer, je crois que Full Metal Jacket aussi est de 87. Mais pour le coup, c'est paradoxalement, j'ai l'impression, un des premiers films qui a traité la guerre du Vietnam selon un angle plus humain, plus drôle, plus sensible. Et je trouve ça assez intéressant de voir qu'il y a un réalisateur qui a décidé de prendre le contre-pied de ce qu'il faisait le Vietnam au cinéma aux États-Unis. Et c'est pour ça que j'avais envie de mettre ce film en avant.
Bon, du coup, c'était à moitié la conclusion. Moi, j'aurais pensé avant tout à tous les films qui ont déjà été cités avant, mais comme j'arrive en dernier, je vais juste rappeler peut-être que Forrest Gump est aussi un film sur la guerre du Vietnam et que malgré tout, pour aussi simple et on va dire peut-être pas simpliste, mais bon enfant que puisse paraître Forrest Gump, je trouve que sur la guerre du Vietnam, il y a quelque chose, le film a aussi quelque chose à dire, et en tant que c'est un des films qui a souvent été, en tout cas montré comme un des films les plus populaires de la culture occidentale, je trouve que c'est intéressant de voir que ce film s'intéresse lui aussi à la guerre du Vietnam, je crois tourné dans les années 90, fin 90, donc voilà.
On pourrait commencer par revenir rapidement sur le début un peu de cette mode, entre guillemets, de faire des films sur la guerre du Vietnam. Parce que quand même, si on regarde un peu la plupart des films qu'on a cités, alors un peu, c'est un peu moins vrai pour Tonnerre sous les tropiques, mais c'est à peu près vrai pour la plupart des autres. Globalement, ça s'étale sur une période de 15-20 ans, globalement, donc de 79 pour Apocalypse Now à, aux années 90. Ah, c'est encore avant Apocalypse Now. 78, ouais, bon, ok, mais on est dans la même... Ouais, tu pinailles, quoi, on est à peu près, ouais, voilà. Ouais, mais globalement, on est sur une période assez restreinte où il y a une petite dizaine de films, quand même, qui prennent ce sujet et qui ont été faits et qui ont globalement marqué l'histoire du cinéma américain. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que la période un peu d'incubation a été relativement courte parce que la guerre du Vietnam... Enfin, la fin de l'engagement américain, c'est 62. Et donc...
72, 73 même.
73, ouais. 73. Ah putain, ouais, je suis con. Alors non, c'est le début 62 ?
Ouais.
Oui, c'est le début de l'engagement, ouais. Mais oui, je suis bête, putain.
En total, c'est la chute de Saigon en
75. Ouais, ça, ouais, mais la fin de l'Amérique, c'est un peu avant. Mais du coup, ouais, c'est très court, hein. C'est 6 ans. 6 ans, alors que... Justement, parce qu'avant, on parlait un peu de l'Algérie. Si on fait un peu le parallèle avec la guerre d'Algérie en France, où la mémoire... Enfin, on a du mal à digérer cette mémoire-là. Finalement, les États-Unis l'ont fait assez vite, puisque à peine 6 ans après la fin de l'engagement américain, on a The Deer Hunter qui sort, et puis très vite, à quelques années d'intervalle, une bonne série de films qui sort sur le sujet. alors que c'est quand même le récit d'une expérience traumatique, et pour des individus, à l'échelle individuelle, et on va sûrement en parler beaucoup, mais aussi pour une nation, parce que c'est quand même une grande... c'est avant tout une défaite, et une défaite assez humiliante pour ce qui était sans conteste la première armée au monde, et qui était encore auréolé de son statut de quasiment de sauveur de l'humanité après la libération de l'Europe.
Par rapport à ce que tu dis, je trouve que c'est d'autant plus intéressant que quand on regarde notamment les premiers films qui sont sortis sur la guerre du Vietnam, en tout cas ceux qu'on évoque, donc The Deer Hunter et Apocalypse Now, je pense que le délai aussi court a empêché ou en tout cas freiné les réalisateurs à adapter un point de vue, on va dire, politique sur la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que le regard qui est porté sur le conflit est certes très critique, mais pas tant sur sa légitimité que sur ses modalités et la façon dont il a torturé à la fois, on va dire, les natifs, mais également les soldats qui ont pris part au conflit. Et que ce soit The Deer Hunter, c'est particulièrement vrai parce qu'on est vraiment pendant 3 heures dans la psyché d'un personnage et son interaction avec les différentes personnes, qu'il s'agisse des soldats ou des gens de sa ville natale. Mais également dans Apocalypse Now, on est bien plus dans une descente aux enfers de l'âme humaine que un pamphlet contre les décisions politiques et stratégiques qui ont pu être prises au moment de la guerre du Vietnam.
Juste pour rebondir précisément sur ce que tu viens de dire, d'ailleurs Apocalypse Now, c'est inspiré d'un livre de Conrad, c'est ça, voilà, sur normalement exactement, redis le titre,
Au cœur des ténèbres.
Au cœur des ténèbres, c'est ça, où normalement ils errent sur le fleuve Congo, ouais, afin de retrouver un vieil officier allemand, c'est ça, qui est perdu. Donc en fait, c'est inspiré de cela, et Coppola a juste profité de ce passé traumatique dont il disposait, le Vietnam, afin de transposer cette histoire qui a donné un chef-d'œuvre.
Alors, j'aimerais juste apporter une précision par rapport au caractère politique des films sur le Vietnam, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a des œuvres qui ne parlent pas du Vietnam, mais qui sont clairement anti-Vietnam, et qui sont des œuvres qui ont été faites pendant la guerre du Vietnam. Et ça, c'est aussi un élément qui à mon avis, doit être abordé. Par exemple, le film Air de Milos Forman, qui est donc une comédie musicale sur des hippies, qui porte vraiment en son sein un discours très anti-Vietnam, et c'est un film qui est sorti en 72, je crois, donc avant la fin du conflit. Même chose pour un film qui ne se passe pas au Vietnam, et j'ai été regardé, parce qu'effectivement, le camarade Dudon m'a justement rappelé que ce film se passait pendant la guerre de Corée, alors que je pensais qu'il se passait au Vietnam. C'est M.A.S.H., qui est un film sorti en 70, mais qui très clairement traite de l'intervention américaine au Vietnam, selon un ton vraiment ironique et comique, qui ridiculise complètement l'armée américaine, qui est quand même un truc éminemment politique, parce qu'on sait comme les Américains sont fiers de leur pays et de leur armée par extension, et de ce point de vue-là, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Pour moi, le Vietnam a été traité d'emblée comme un sujet très politique par les réalisateurs. Mais après, il est vrai qu'il y a eu ce choix... notamment dans The Deer Hunter, d'une vision très à hauteur d'homme, je dirais, mais qu'on retrouve moins dans d'autres films. Par exemple, pour moi, Full Metal Jacket est un film clairement politique, parce que la façon dont est dépeinte l'institution armée, ouais, est pour le coup vraiment un pamphlet politique, et le sergent Hartman est complètement une allégorie du système. Ouais. Et de ce point de vue-là, il y a l'ambiguïté. Parce que c'est aussi un film sur les hommes. Mais bon, après, ça, c'est le génie de Kubrick, ça. Mais il y a quand même cette double dimension.
Juste une légère précision, Éloi, car nous avons un devoir de délivrer les informations les plus correctes à nos auditeurs. Le film Hair de Milos Forman dont tu as parlé n'est pas sorti en 1972, mais bien en 79, soit 4 ans après la fin de la guerre du Vietnam. Mais ce n'est pas grave.
C'est pas grave. Tu viens de briser mon argument là.
Ouais. Bah tant pis, ce serait pas grave.
On a un devoir.
donc ce sera coupé. Ce qui est faux sera coupé.
Je viens apporter une précision.
Attendez,
je viens apporter une contre-précision. R est adapté d'une comédie musicale qui, elle, a été faite pendant la guerre du Vietnam.
D'accord.
Donc voilà. Donc en fait, Mamoun, bim, je t'ai battu.
Ok, bon, du coup, pour...
Il n'a sorti aucun film pendant la guerre du Vietnam, ce qui était le cas.
Bon, du coup, pour rebondir plutôt sur ce qu'avait dit Eloua. Ouais, c'est...
tu conserves tout au montage, Lucas. Ce sera extraordinaire. Non, ouais, donc pour rebondir sur ce qu'a dit Eloi, sur l'aspect un peu tout de même assez politique de certains des films sur le Vietnam, je suis d'accord. Après, là où. Je suis d'accord avec tout ce qu'on a pu dire avant, c'est que la manière dont le politique est traité est toujours, comme tu l'as dit, soit discrète, soit allégorique, mais jamais très frondale et pamphlétaire à proprement parler. Et j'irai plus loin, je dirais que c'est plus que politique, c'est presque un esprit américain qu'on critique dans Full Metal Jacket, et aussi un peu dans Apocalypse Now, dans les premières scènes, notamment celle avec Robert Duvall, ce côté... avec la fameuse chevauchée des Valkyries, etc. Là, vraiment, on dépeint presque de manière caricaturale cette vision qu'ont pu avoir les États-Unis d'eux-mêmes à un moment, comme et même après d'ailleurs. C'est ça qui est paradoxal. Faudrait peut-être en parler, mais comme presque comme gendarme du monde et donc autorisé à tout et donc à prendre à la légère finalement leurs interventions, presque comme un jeu. Je veux dire, la scène Apocalypse Now où après avoir bombardé un village au napalm, les soldats vont faire du surf au milieu des explosions. Elle est quand même d'un tragicomique absolu, quoi. Et on retrouve un peu ça, effectivement, dans Apocalypse Now, avec ce côté, ce sergent très sûr de lui, convaincu de faire le bien, presque, c'est, alors qu'il est en train d'aliéner totalement des hommes et d'en faire, effectivement, comme tu disais, Bastien, tout à l'heure, des machines à tuer, et voire même des machines à se tuer, parce que c'est quand même ce que fait l'un des personnages qui est particulièrement martyrisé. Et je crois qu'à ce niveau-là, c'est l'une des premières remises en question très fortes, j'ai l'impression, des États-Unis par eux-mêmes. En tout cas, avec un mouvement très marqué et qui va avoir une influence sur un très large public. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est vraiment une rupture même dans l'histoire artistique américaine au sens large. Du coup, juste pour continuer un peu et peut-être conclure ce côté... diabolisation et opposition politique de la guerre du Vietnam. En 2020, il y a quand même eu... c'est beaucoup plus récent, du coup, mais c'est pour montrer que la résonance de cet événement est encore totalement d'actualité. En 2020, il y a quand même eu deux films qui sont sortis sur Netflix et qui concernent en partie la guerre du Vietnam, plus ou moins directement, puisqu'il y a eu, du coup, le premier, Da Five Bloods, qui est directement un film sur la guerre du Vietnam, une sorte d'hommage de Spike Lee un peu à Apocalypse Now, plus ou moins apprécié, mais qui a le mérite aussi de mettre la lumière sur des héros un peu parfois... sur les Afro-Américains qui se sont battus pour les États-Unis et qui ont parfois été négligés. Enfin, il y a très peu, en tout cas, de héros Afro-Américains dans les films précédemment cités. Et du coup, Spike Lee, toujours dans sa... avec son côté revendicatif, mais qui le fait du coup pour rendre hommage à ces héros de l'histoire qui n'ont pas forcément eu l'occasion de d'être présents dans les autres films. Et il y a un autre film du coup qui est Les Sept de Chicago, qui est de Aaron Sorkin, où le Vietnam c'est plus en toile de fond, mais c'est dans toute la mouvance hippie protestation contre la guerre en elle-même. Et du coup, là, clairement, on voit avec notamment les personnages de Sacha Baron Cohen, etc., des militants, des activistes anti-Vietnam, quelque chose qui, du coup, peut se faire en 2020, mais qui, comme l'a dit Baptiste tout à l'heure, se faisait beaucoup moins dans les années 70 et sont quasiment totalement absents des films précédemment cités. Donc voilà, je sais pas si Bastien, si t'as quelque chose à rajouter.
Eh bien, c'est très intéressant parce que tu parles... de films qui n'ont pas forcément été abordés, auxquels on ne pense pas forcément lorsque on parle de guerre du Vietnam. Et je voulais vous partager un film, ma petite pépite, ma découverte récemment, concernant la guerre du Vietnam. Ça s'appelle Hamburger Hill. Et d'un point de vue historique, tout autant que cinématographique, c'est absolument passionnant, dans la mesure où j'ai eu l'impression, en voyant ce film, de retrouver un état de violence à l'état pur. C'est-à-dire que on est plongé dans cette jungle vietnamienne au sein des GIs, des soldats américains. On voit les gouttes de transpiration sur leur front et ils savent que 10 mètres plus loin, il y a des Vietnamiens qui sont là, qui sont prêts à défendre leur patrie et qui veulent les étriper. Et ce film m'a profondément marqué parce que ça montre à la fois le côté absurde de la guerre du Vietnam, car tout le film, ils se battent pour prendre le contrôle d'une colline, d'accord. Le seul problème, c'est que après, qu'est-ce qu'on fait d'une colline en plein milieu de la jungle ? Ben, on la déserte. Du coup, les Vietnamiens la reprennent derrière. C'est complètement absurde. Et de deux, on voit tout simplement la violence entre des hommes qui se massacrent les uns les autres. Là, c'est pas une question de patrie, non. Non, non, c'est une question d'un homme armé d'une baïonnette face à un autre homme en face armé d'une baïonnette, dans un fourre-tout pas possible. Et ce film-là m'a profondément marqué, ce film qui montre tout simplement ce côté cru de la chair humaine qui s'entrechoque. Et donc, Hamburger Hill, voilà, c'était mon petit coup de théâtre sur Hamburger Hill qui m'a profondément marqué en tant que un excellent film d'action, notamment sur la guerre du Vietnam. Absolument pas.
John Irvine, c'est ça.
Merci Bastien pour cette découverte.
Je pense qu'il y a un truc dans ce que tu viens de dire par rapport à l'idée de prendre une colline comme ça un peu pour rien et de la lâcher. Et une idée qui ressort, je trouve, de beaucoup de films par rapport au Vietnam, c'est le côté absurde de cette guerre. C'est aussi peut-être un peu pour ça que par moment... Et je pense finalement ce truc-là ressort très bien dans un des films qui traite de la question à la fois de la plus dure et la plus comique, et Baptiste en parlait au début, Forrest Gump. Il y a ce côté absurde de la guerre du Vietnam, pour moi, il est très très bien représenté par Forrest Gump, plutôt finalement quand il rentre aux États-Unis que quand il y est, notamment cette scène où il est sur l'esplanade du Capitole, à un meeting politique anti-Vietnam et qui doit intervenir parce qu'il se trouve que c'est un soldat en uniforme et qu'il est là, et qu'il y a ce côté un peu... Enfin, qui correspond bien au personnage d'un mec qui sait pas trop pourquoi il était là, mais qui était là et qui a fait son truc, qui a fait son job et qui a été envoyé dans un conflit dans lequel il avait rien à faire. Qui a... Alors j'ai un doute parce que je sais plus si son acolyte finit par décéder ou pas. Et oui, il finit par décéder, désolé pour le spoil les gens. Mais son acolyte vendeur de crevettes, voilà, c'est bon. Après bon, voilà, c'est Forrest Gump, vous l'avez tous vu j'espère. En tout cas, les vrais l'ont vu. Et de ce point de vue-là, le côté absurde...
Nous respectons tous nos auditeurs, même ceux qui n'auraient pas vu Forrest Gump.
Non, mais c'est bon, Mahmoud, c'est le disclaimer humain, quoi.
C'est le politiquement correct, la caution politiquement correcte du podcast, quoi.
Mais de ce point de vue-là, c'est surprenant, parce que je trouve que le côté absurde de la guerre du Vietnam, il aurait pu donner lieu à des équivalents un peu à la grande vadrouille, version Vietnam. Ce côté, vraiment, on aurait pu vraiment en rire. Et malheureusement, ou... Je sais pas, heureusement, selon les points de vue, mais je trouve plutôt malheureusement. En tout cas, il n'y a pas de film qui me vienne à l'esprit qui traite vraiment le Vietnam que d'un point de vue de la dérision. Que comme un truc qui était vraiment absurde et ridicule. Enfin, après, je sais que là, je vois les cinéphiles avertis en face de moi qui ont déjà 50 films qui leur pop dans la tête. Mais vraiment, d'en faire une pure comédie sur le Vietnam, il y a peut-être un tabou ou quelque chose de ce genre-là. Mais j'en ai pas en tout cas là qui me viennent à l'esprit.
Après, il y a Tonnerre sous les tropiques, comme on le disait, oui, mais c'est vraiment la guerre du Vietnam. Ouais. C'est un film sur.
C'est un film qui raconte un film sur la guerre du Vietnam.
Le tournage d'un film
sur la guerre du Vietnam.
Mais pour le coup, c'est vraiment une comédie. Et après, en vrai, dans Tropic Thunder, il y a des choses intéressantes aussi sur ce côté-là, un peu de. Enfin, sur une réflexion vite fait sur les États-Unis, etc.
Enfin, l'industrie cinématographique, à la manière dont elle peut exploiter certains mythes américains, positifs ou négatifs, pour un intérêt, enfin purement mercantilement, quoi.
Mais ça reste surtout une très bonne comédie.
C'est une très bonne comédie.
Elle faisait l'apologie de la violence au Vietnam.
Par l'absurde que, du coup, Eloi, t'as déjà commencé un peu à toucher du doigt, c'est vrai que, personnellement, quand je pense au film sur la guerre de Vietnam, c'est un peu la grande thématique qui me vient en tête. Et c'est marrant parce que c'est annoncé un peu dès le début, de façon presque dérangeante, par The Deer Hunter, donc Voyage au bout de l'enfer. C'est-à-dire que, globalement, le MacGuffin, un peu ce qui revient tout au long du film... C'est l'imagerie de la roulette russe, et on ne peut pas avoir plus arbitraire et absurde que finalement ce qui devient l'enjeu principal du film. C'est-à-dire que finalement, la confrontation finale avec son ami d'enfance qui finit par retrouver, elle est on va dire, mise à l'épreuve et testée uniquement par ce retour de la roulette russe dont son ami n'a pas pu se défaire. et avec une conclusion qui frustre tout le monde. Enfin, on vient de se taper 3 heures de film et le mec se flingue avec une balle alors qu'il vient de retrouver son ami. Et ensuite, on a l'impression que par la suite, les réalisateurs qui ont repris le flambeau de la guerre du Vietnam, ils n'ont pas pu s'en extraire. C'est-à-dire que bon, on a pu en parler avec Apocalypse Now. On a cette longue descente aux enfers, la descente d'un fleuve, donc on comprend même plus vraiment l'intérêt. Surtout quand on arrive finalement à rencontrer la personne qu'on a cherché pendant tout le film, on retrouve juste un gourou qui erre comme ça au milieu de la jungle vietnamienne. Et je pense que le film qui traite le plus, de la façon la plus acerbe et en même temps la plus pertinente, l'absurde de la guerre du Vietnam, c'est Full Metal Jacket, dont parlait Bastien. C'est vraiment, enfin, c'est un des rares films où je me suis dit, c'est vraiment l'impression d'avoir vu deux films. Le film est construit comme ça, c'est-à-dire en deux parties où on a la préparation des soldats et la confrontation avec le réel et la réalité de la guerre. Ce qui fait que en tant que film, j'ai du mal à l'apprécier en tant que tel parce qu'on a vraiment, et le film est scindé de façon presque trop frustrante pour le spectateur. On apprécie très bien les deux parties, mais j'ai du mal à en faire un seul film. On a l'impression que même que tout est remis à plat à l'entrée de la deuxième partie. Tout ça pour dire que si ça peut avoir des défauts en termes de narration, le propos est vraiment renforcé parce que on a vraiment d'un côté la longue montée, on va dire. La longue formation où on pousse vraiment les corps des soldats dans leur retranchement avec, on va dire, un premier climax qui est lui-même déjà absurde. Et quand on arrive au Vietnam, on voit que finalement tout ça n'a servi strictement à rien. On avait pu le sentir, on sent déjà dans la formation des soldats qu'il y a quelque chose d'arbitraire et purement militaire, des disciplines militaires plus que de formation à proprement parler au terrain. Mais voilà, on arrive ensuite, on a l'impression qu'on a formé des hommes au combat, et finalement la conclusion de Full Metal Jacket, quand ils chantent la chanson Mickey Mouse, on se rend compte que finalement c'est pas parce qu'on leur a mis une arme dans la main et qu'on leur a appris à marcher que ces gars-là c'est pas des enfants foutus dans le feu de la guerre, quoi. En ça, Full Metal Jacket reste vraiment un chef-d'œuvre parce que si en termes de narration il peut avoir quelques défauts, je trouve que la construction du propos a rarement été aussi claire.
Ouais, pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit par Baptiste, pour moi il y a ce côté des enfants qui sont jetés dans la guerre, aussi un aspect qui apparaît très bien dans Platoon avec le personnage qui est joué par Charlie Sheen. Je trouve d'ailleurs choix de casting assez intéressant parce que Platoon n'est pas mon film préféré sur la guerre du Vietnam, si je peux me permettre un petit avis personnel. Je trouve que c'est un peu moins fin dans l'analyse que tous les films qu'on vient de citer. Néanmoins, là, je trouve qu'on a un choix de casting qui est vraiment très intéressant parce que Charlie Sheen, pour moi, représente vraiment bien ce côté gamin, un peu immature, etc. Bon, dans la vie en général, mais même dans les films dans lesquels il joue. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est très intéressant de voir ce côté aussi un peu génération, pas sacrifiée, mais en tout cas jetée dans un monde qui lui convenait pas et qui lui convient pas, ce côté un peu de gens qu'on a balancé dans un truc horrible et qui n'étaient pas prêts, parce que c'est vraiment des gamins. Et après tout, on pourra nous rétorquer que c'est une thématique qui revient dès qu'on parle de la guerre, mais j'ai le sentiment qu'au Vietnam, elle est plus mise en avant naturellement que dans d'autres genres, en tout cas dans des films qui sont aussi proches des événements qui relatent. Directement, on voit ce côté immaturité, ce côté directement dangereux et qui brise des adolescents en réalité. Parce que ce soit dans Full Metal Jacket, les personnages ou donc Charlie Sheen dans Platoon, ces mecs-là sont des ados. Ils ont nos âges à tout casser et ils se font broyer. Et de ce point de vue-là, ça c'est aussi un point. Que ce soit ce point-là qui ressorte en premier, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a paradoxalement pas tant dit que ça. C'est que beaucoup de gens qui ont fait des films sur la guerre du Vietnam sont des gens qui ont fait la guerre du Vietnam aussi, d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas qui l'ont vécu. Ce qui est un point qui est peut-être un peu propre au Vietnam. J'ai le sentiment qu'on retrouve moins ça pour la Seconde Guerre mondiale et a fortiori pour d'autres conflits comme l'Irak en particulier. Et peut-être que ça aussi, c'est une piste qu'on pourrait creuser sur une explication du regard particulier qu'il y a sur le Vietnam.
En tout cas,
sûrement pas Ben Stiller qui a 10 ans. Qui avait 10 ans.
Un truc sérieux à dire un jour ou pas.
Bon, bah, merci. Alors, attends, moi j'ai juste un truc sérieux à
dire. Lorsque la guerre du Vietnam s'est achevée.
Ok.
Voilà, il faut le savoir.
Du coup, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, Eloi, en vrai, je pense que c'est aussi dans la caractéristique même de la guerre, du conflit au Vietnam. Notamment aussi qui fait écho en France à la guerre d'Algérie, c'est que c'est des guerres qui ont concerné la population en général, puisqu'il y avait le système d'appeler, en fait. Tu faisais ton service militaire et tu pouvais être appelé à la guerre sans être un militaire de formation, ce qui est beaucoup moins vrai pour les guerres d'Irak, les guerres plus récentes. Maintenant, ça se fait plus trop, je pense.
Pour les guerres mondiales.
Oui, pour les guerres mondiales, oui, mais c'est différent, je trouve, parce que il n'y a pas vraiment eu de film. Enfin, je pense pas qu'il y ait eu de réalisateur qui ait participé à la Seconde Guerre mondiale et qui ait réalisé des films dessus juste après, tu vois. Je sais pas trop.
Peut-être John Ford.
Là, je t'avoue que je sais pas du tout.
Il en a fait. Il a vécu la période après ce qu'il était combattant.
Trop vieux. Il est trop vieux.
Pour être combattant, c'est. Ouais. Combattant, c'est, ouais, c'est quand t'as entre 20 et 40 ans, quoi, mais je sais pas trop.
Il devait déjà avoir 40-45.
Ouais, c'est possible.
Donc, ouais,
c'est plus marginal.
Mais c'est surtout que. Et puis, c'est vraiment une guerre. Je pense que rarement dans l'histoire, il y a eu une guerre aussi viscéralement attachée à la société, dans le sens où. Enfin, en tout cas, aux revendications sociales. Parce que la Seconde Guerre mondiale, il y avait pas, forcément, il y avait des gens qui n'étaient pas pour la guerre, mais tu le vis pas pareil vu que t'es concerné directement en général. Oui, c'est ça. Et puis c'était la première fois que les États-Unis se faisaient attaquer sur leur territoire aussi, la Seconde Guerre mondiale, faut le rappeler. Là où le Vietnam, ça se passe totalement en dehors des États-Unis, donc forcément la société américaine a un regard extérieur sur le conflit.
Donc, ouais, voilà. Du coup, juste pour apporter une petite précision par rapport à une demande de Bastien, par rapport à ce que je disais sur des gens qui ont fait le Vietnam. Alors j'ai cherché un petit peu entre-temps. Oliver Stone, qui est donc le réalisateur de Platoon et qui a fait aussi deux autres films sur le Vietnam, Né un 4 juillet et le troisième film, le nom m'échappe.
Tom Cruise, je crois.
Ouais, avec Tom Cruise. Et donc Oliver Stone a fait le Vietnam. Et par ailleurs, les deux scénaristes de Full Metal Jacket, Michael Ure et Gustav Asford également, ont été des anciens du Vietnam. Et de ce point de vue-là, voilà, ça bon, en point... En plus de préciser un peu ce que ta question, Bastien, c'est vraiment ce côté. Finalement, il n'y a pas de secret. À un moment donné, les gens qui ont vécu le Vietnam ont vécu la difficulté de cette vie, de ce monde, etc. Et c'est pas étonnant qu'ils en dressent un portrait extrêmement noir et finalement très très peu d'optimisme, parce que franchement, voir un film sur le Vietnam qui soit un film même un tantinet optimiste, c'est dur. Finalement, dès que le Vietnam est mentionné d'une manière ou d'une autre dans un film, même quand c'est des gens qui sont des anciens du Vietnam, c'est jamais pour mettre en valeur quoi que ce soit de positif. C'est très très rare qu'on entende parler dans un film, là il n'y a pas d'exemple qui me vienne à l'esprit, même d'un vétéran du Vietnam dans un film qui se passerait 30 ou 40 ans après, pour qui le Vietnam serait, j'en sais rien, une marque de courage ou un truc comme ça. Le côté héroïque du Vietnam a complètement disparu. De ce point de vue-là, enfin, quels sont les héros du Vietnam au cinéma américain ? J'en vois pas beaucoup. Enfin, c'est des anti-héros à la limite. Oui, je vois Bastien qui pense à Rambo très très fort. Mais est-ce que Rambo est véritablement un héros ? C'est surtout un gros lourdeau. Enfin.
Je pense que Bastien va avoir envie de rebondir là-dessus. Ouais, je veux juste parler de Platoon entre-temps. Mais
vas-y, parle de Platoon.
Parler d'un autre truc, d'un autre thème. Je sais pas ce que vous en penserez, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'analyser. À chaque fois que quand même c'est un thème très fort, le Vietnam, qui pourrait phagocyter un peu les caractéristiques propres au réalisateur. Et j'aimerais bien aussi, je sais pas, avoir votre avis sur la place qu'occupent ces films dans la filmographie de leur réalisateur. Parce que notamment, enfin, pour le coup, Platoon, c'est clairement un film, genre Oliver Stone, de toute façon, son grand objectif de vie avec le cinéma, c'est faire vivre l'histoire américaine, transmettre. Aussi, il y a un vrai devoir de transmission, de mémoire, de parler, en tout cas d'utiliser le cinéma pour faire parler la culture américaine. Donc Platoon, ça s'inscrit dans cette logique, et même si c'est un ancien combattant, je trouve que ça s'inscrit vraiment dans une autre logique que par exemple Coppola, pour qui je pense pas que ce soit non plus. Enfin, on pense pas histoire des États-Unis quand on pense à Coppola. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et puis Spike Lee, par exemple, juste parce que pour revenir sur Da 5 Bloods, Spike Lee aussi, c'est un film qui s'inscrit dans les thématiques qui lui sont chères, donc la lutte pour l'égalité entre les Afro-Américains et les Blancs aux États-Unis. Et donc voilà, c'est, je sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus.
Bah, de ce point de vue-là, c'est vrai que tu pointes un point intéressant, c'est que les films dont on parle là sont des films qui sont peut-être les films les plus universellement connus dans la filmographie de leurs réalisateurs, parce qu'on va les reprendre... Bon, pour Full Metal Jacket, c'est compliqué, parce que bon, Kubrick a une filmo assez incroyable. Pour Oliver Stone aussi. Pour Oliver Stone aussi, mais par exemple, pour Michael Cimino, pour The Deer Hunter,
c'est indéniable.
À part La Porte du Paradis, c'est éventuellement... Mais The Deer Hunter est quand même vraiment une œuvre vraiment, vraiment majeure. Donc de ce point de vue-là, et en tout cas, et pour Coppola, on pourrait discuter, parce que c'est pareil, le problème de Coppola et de Kubrick, c'est qu'ils ont des filmos qui sont tellement universellement connus, au moins pour les grands titres. Enfin, est-ce que...
Pour le coup, Coppola, je pense que c'est quand même Apocalypse Now.
Ouais, peut-être.
Entre
le parrain et ça,
ouais,
c'est compliqué.
C'est égalité. Enfin, pour moi, c'est égalité en termes de popularité.
En tout cas.
Mais ne nous mentons pas, le parrain est quand même un cran au-dessus.
Bon, et Mamoun
est beaucoup plus connu. Non, beaucoup plus connu aussi.
C'est probablement un peu plus connu.
Il est quand même
En tout cas,
sur le classement du American Film Institute, Le Parrain est décrit comme étant l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma.
Je veux pas lancer un débat interne au truc.
En tout cas, ce n'est pas le
gars.
En tout cas, c'est un des dans le top 3 de Coppola.
En tout cas, clairement, tous ces films, peu importe que ce soit les films majeurs des filmographies auxquels ils appartiennent, tous ces films sont vraiment très connus. Ils sont vraiment très marquants. Tout le monde connaît, d'une manière ou d'une autre, le sergent Hartman. Tout le monde connaît La Chevauchée des Valkyries dans Apocalypse Now. Finalement, The Deer Hunter est peut-être un peu moins connu, mais enfin, ça reste quand même un film assez majeur et assez reconnu. Donc, de ce point de vue-là, on peut se poser la question. Est-ce que c'est parce que c'est des grands, grands réalisateurs qui ont décidé d'aborder ces sujets que ces films-là sont connus ? Moi, je pense pas. Je pense que c'est avant tout parce que c'est un sujet qui a vraiment traumatisé l'Amérique de manière générale et que forcément, après, un film qui sort là-dessus et un film qui va attirer et qui va être traité avec un œil tout à fait particulier, avec un engagement qui peut ne pas y avoir sur d'autres thématiques, parce que clairement, c'est des films dans lesquels leurs réalisateurs se sont engagés d'une manière ou d'une autre. Il y a une charge émotionnelle qu'il n'y a pas dans d'autres films de ces réalisateurs-là. Enfin, par exemple, pour prendre un exemple, la charge émotionnelle dans Apocalypse Now, elle est des années-lumière de la charge émotionnelle dans Conversation secrète de Coppola. Parce que, bien sûr, les thèmes ne sont pas les mêmes, mais de manière générale, l'événement Vietnam est un événement qui résonne comme presque aucun autre événement aux États-Unis, même encore aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait unique, quoi.
Et en plus, juste pour ajouter ce que tu dis là-dessus, je pense que plus généralement que le Vietnam, mais après, je ne sais pas si ça se voit vraiment au cinéma, mais la guerre, dans l'absolu, c'est quand même un sacré révélateur de ce qui... je pense que ça décuple les passions humaines et l'intérêt psychologique d'une œuvre. Et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, donc The Deer Hunter, le titre français « Voyage au bout de l'enfer », c'est quasiment impossible de ne pas avoir la référence à « Voyage au bout de la nuit », qui lui aussi, pour le coup... propose une vraie réflexion sur la guerre et sur du coup la profondeur psychologique, l'impact psychologique qu'a l'horreur de la guerre sur le personnage. Donc, ouais, c'était juste pour l'anecdote, mais c'est toujours bien de le dire.
Ouais, c'est vrai, non, c'est juste. Et je pense que la transition est bonne pour commencer à aborder peut-être justement un peu plus cet aspect purement psychologique de ces films sur la guerre du Vietnam, en tout cas de certains d'entre eux. Donc principalement pour les citer Apocalypse Now, Full Metal Jacket, moi je pensais aussi à L'Échelle de Jacob, qui marchait très bien aussi pour ce que tu disais Éloi, parce que il me semble que le réalisateur c'est Adrian Lyne,
ouais,
et c'est un réalisateur qui en dehors de L'Échelle de Jacob est pas très très connu. Il me semble qu'il y a un autre film assez connu de lui, je me rappelle plus lequel, mais
je vais regarder, mais
en tout cas il n'est pas du calibre des autres réalisateurs qu'on a pu citer avant. Et pourtant L'Échelle de Jacob est un film qui, en tout cas auprès d'une certaine partie des cinéphiles, s'est imposé comme une référence, et notamment comme une référence sur la guerre du Vietnam, quoique en vérité, là aussi, il s'agit davantage d'une toile de fond que du sujet direct, puisque c'est le film est l'histoire d'un vétéran rentré au pays, et non pas du conflit à proprement parler. Mais donc dans ce film-là, et aussi, bien sûr, donc voilà, dans The Deer Hunter, on a toute... On traite totalement ce décalage créé par la guerre, par l'expérience combattante, et notamment en particulier parce qu'il y a de spécifique cette expérience combattante au Vietnam, le décalage que ça crée entre les vétérans et le reste de la population, et la manière dont ça les exclut presque de toute forme d'humanité. Ça les rend presque étrangers à cette humanité qu'ils avaient avant. Oui, voilà, voilà, donc 9 semaines et demie, voilà, pour revenir, là, on me souffle ça pour un autre film assez connu d'Adrien Lin, mais dans un registre extrêmement différent et beaucoup moins dramatique. Donc pour revenir sur ce que je disais, oui, donc voilà, ça a de très spécifique et comment elle marque les psychologies vraiment en profondeur. Elle leur fait ressentir ce décalage et c'est d'autant plus flagrant que, comme on l'a dit avant, souvent ces soldats arrivent comme des enfants avec des mentalités assez enfantines et ils passent presque directement du statut d'enfant au statut de mort-vivant sans avoir cette espèce de maturité qui leur aurait permis peut-être de rebondir, enfin d'encaisser davantage cette expérience traumatisante. Et donc, à ce propos-là, c'est ces films qui font la part belle au retour au pays, donc notamment... L'échelle de Jacob ou The Deer Hunter, montre très bien ce décalage que ça crée et cette espèce de situation presque comme un chat de Schrödinger où ils sont à la fois vivants et morts, ils ne savent plus très bien où ils en sont. Le personnage de Christopher Walken, c'est ça ? Dans The Deer Hunter, voilà, pour moi, symbolise totalement ça avec son obsession pour la roulette russe. C'est littéralement ça, c'est à chaque moment, il peut être vivant ou mort, à chaque instant T qui se répète, et c'est presque comme s'il embrassait complètement cette situation qui est totalement à part et qui le coupe des autres.
Mais je pense que cette idée, cet intérêt qu'ont les films sur le Vietnam par rapport aux vétérans du Vietnam et à leur vie après le Vietnam et leur rapport à ce qu'on pourrait qualifier de syndrome post-traumatique, finalement. C'est un point qui est assez intéressant, parce que de ce point de vue-là, ça traduit bien l'idée que le Vietnam, d'une certaine manière, hante un peu la société et hante les personnages. Tu parlais donc de Deer Hunter ou du film d'Adrian Lin, mais bien évidemment Taxi Driver, qu'on n'a pas encore abordé, qui est le truc évident, qui reprend pour le coup peut-être encore plus... que The Deer Hunter, le lien au Vietnam, une fois qu'il est aux États-Unis, parce qu'il porte sa veste du Vietnam, il se fait cette coupe de cheveux, cette espèce de coupe iroquoise, mais qui a un sens très militaire quand il l'a fait. Et de ce point de vue-là, y a vraiment ce côté d'un spectre qui rôde. C'est-à-dire que le Vietnam est plus qu'un événement, c'est aussi un truc qui suit tous les Américains, même quand ils sont aux États-Unis. Et qui influence directement leur vie et qui les rend fous d'une certaine manière. Et là aussi, on revient un peu à ce qui a été dit, c'est que c'est peut-être plus comme ça que le Vietnam traduit un peu la faillite du système américain et que les films sur le Vietnam sont vraiment des critiques, ou en tout cas pour certains d'entre eux sont vraiment des critiques politiques. C'est qu'il y a une forme de, et je voudrais pas faire une métaphore mal placée, mais une forme de virus Vietnam. Alors... J'ai besoin d'une intervention du politiquement correct là parce que non mais on va couper cette partie au montage s'il vous plaît. Non mais disons qu'il y a un syndrome Vietnam, voilà, pour le voilà, c'est une appellation qui me convient beaucoup mieux. Il y a un syndrome Vietnam qui très clairement rend l'Amérique malade dans les films et on le voit et qui pousse les Américains à avoir un rapport notamment dans Taxi Driver, un rapport à la violence qui est totalement distordu et inhabituel et qui rend possible ou envisageable des actes d'une violence terrible, donc en l'occurrence l'assassinat d'un homme politique en campagne, et qui en même temps va glorifier d'autres actes, qui est encore là, en l'occurrence le meurtre. Et ce rapport à la violence qui paradoxalement rend une violence décomplexée aux États-Unis après le Vietnam, c'est un rapport assez intéressant. Et de ce point de vue-là, c'est aussi la trace du fait que le Vietnam transforme, le Vietnam façonne un peu les Américains dans les films. Et de ce point de vue-là, c'est par exemple par rapport à Full Metal Jacket, on est curieux de voir, comme c'est un film qui lui pour le coup se concentre pas sur le retour, moi je serais curieux de voir ces personnages de retour. J'aurais été curieux de voir ce que Kubrick leur aurait fait faire de retour. Est-ce qu'ils seraient un peu redevenus des bons Américains comme ils étaient avant? Ou est-ce qu'ils auraient au contraire sombré un peu de ce point de vue-là? Et je trouve que c'est quelque chose qui est... Et c'est un point d'interrogation à chaque fois qu'on voit un film sur le Vietnam, c'est jusqu'à quel point ces gens-là ont été modifiés, ont été transformés en leur fort intérieur. Et ça, c'est très fort quand même, parce que
je trouve que c'est pas quelque chose qu'on ressent tant que ça dans d'autres conflits qui ont concerné des civils aux États-Unis. Et quand on voit même les personnages de films par rapport à la Seconde Guerre mondiale en particulier, même si il faudrait que je le retrouve, il y a un film là sur des vétérans qu'on charge de faire l'apologie de l'armée, peut-être un film de Clint Eastwood, il faudrait que je vérifie, mais finalement c'est un cinéma plus tardif, c'est un cinéma qui vient 40, 50, 60 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et de ce point de vue-là, tout de suite, et on l'a dit dès le début, tout de suite, le Vietnam a été vu comme une expérience traumatisante et qui change durablement les choses. Et de ce point de vue-là, c'est aussi pour ça que je pense que ces films sont marquants.
Ouais, bah, pour rebondir là-dessus, je pense que ça s'explique quand même, ces spécificités du Vietnam au cinéma et dans sa manière, la facilité ou en tout cas qu'ont eu les réalisateurs à traiter l'aspect particulièrement traumatique de l'expérience combattante. Là où ça semblait plus compliqué ou du moins plus allusif dans les films traitant d'autres guerres, à mon sens, ça s'explique par plusieurs raisons, mais sûrement, d'abord et surtout, parce qu'au Vietnam, c'est peut-être l'une des... ou en tout cas peut-être la première guerre de l'histoire des États-Unis où les soldats eux-mêmes ne savent pas très bien ce qu'ils viennent faire là. Et je veux dire, finalement, la Seconde Guerre mondiale, bon, alors effectivement, la guerre était... C'est une guerre absolument atroce d'un point de vue humain, matériel, etc. On sait que c'était d'une violence inouïe. Mais il y avait quand même cette idée d'agir pour le bien. Je pense que les soldats américains qui venaient en Europe avaient une conviction profonde qu'ils agissaient pour une bonne cause et qu'ils étaient animés par une espèce d'idéal qui les aidait sûrement à surmonter les atrocités auxquelles ils faisaient face. Là, on a une guerre très différente. Déjà parce que c'est une guerre face à une guérilla, donc face à un ennemi presque un peu invisible. Et aussi parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est souvent donc des engagés non volontaires et qui voient pas très bien ce qu'ils ont à faire en plein milieu d'une jungle, un climat qui leur est très inhospitalier aussi. C'est souvent le film le montre bien et c'est d'un point de vue esthétique aussi, si on veut parler un peu de l'aspect esthétique que peuvent avoir certains des films, cette ambiance très poisseuse vraiment que peuvent avoir les films sur le Vietnam est particulièrement intéressante et renforce l'aspect très oppressant que peuvent avoir plusieurs de ces films, la majorité de ces films, et notamment à ce niveau Apocalypse Now, que vraiment, enfin, les premières images quand je pense à de la transpiration au cinéma, c'est vraiment des images d'Apocalypse Now où ça dégouline, quoi. Voilà, tu vois, c'est ça, il y a vraiment les soldats qui se suintent et puis les moustiques qui viennent comme ça, qui s'agrippent tout le temps. Il y a, dans la version longue, il y a notamment cette scène avec la moustiquaire qui est assez importante. Voilà, c'est ça. Chez les Français, il y a un truc avec une moustiquaire, donc on voit tout ça. Et donc les conditions vraiment, clairement, enfin même de vie, qui étaient horribles en dehors même de l'aspect combattant. Et qui renforce ça, donc l'idée d'être dans un autre absolu, on ne connaît pas ni la population, ni le lieu où on est là, on ne sait pas pourquoi on se bat, il y a une espèce de perdition en fait totale à tous les niveaux, psychologiques, physiques, et même sentimentales en fait, parce que voilà, il n'y a plus non plus cette espèce d'idéal qui peut permettre de transcender ça. Et c'est peut-être pour ça que, même si l'expérience combattante est forcément par un biais toujours plus ou moins traumatique, elle prend une dimension particulière au Vietnam et c'est aussi pour ça que les réalisateurs ont eu peut-être plus de facilité à la montrer dans cette guerre, notamment parce qu'il y avait une manière visuelle de sublimer et d'illustrer ce décalage et cette confrontation en altérité pure qui aurait été peut-être plus difficile. Peut-être que sur d'autres conflits, le recours au dialogue aurait été plus important. Et souvent, d'ailleurs, c'est un autre point assez marquant, plusieurs des films sur le Vietnam se permettent d'être assez avares en parole et de se concentrer sur vraiment la création d'une atmosphère. Et l'atmosphère seulement fait passer toute cette espèce de bouleversement psychologique créé par l'expérience de cette guerre. Et c'est peut-être la spécificité de ce conflit.
Mais oui, ce que tu dis est tout à fait vrai, et je pense qu'on peut le compléter un peu en se concentrant. Enfin, voilà, j'aimerais vraiment me concentrer sur la première scène de la roulette russe, enfin la première roulette russe de The Deer Hunter, qui pour moi correspond exactement à ce que tu dis, en particulier pour le côté poisseux. Enfin, il faut regarder le maquillage de Robert De Niro dans cette scène, et par ailleurs, bon, la performance, mais même une scène où donc Christopher Walken et Robert De Niro communiquent sans parler, par une espèce de lien, mais c'est aussi une scène qui pour moi est intéressante parce qu'elle place quasiment sur le même niveau Robert De Niro, Christopher Walken et leur bourreau vietnamien de ce point de vue-là. Et ça, c'est un point qui est intéressant si on compare par exemple à d'autres films sur le Vietnam où, comme on l'a déjà dit, on ne voit pas tant que ça les Vietnamiens. C'est que là, il y a un côté très, très, très ambigu dans cette scène. Parce que notamment quand Robert De Niro paraît rigoler avant d'appuyer sur la gâchette, et qui rigole de bon cœur avec ses bourreaux vietnamiens, et que dans la seconde qui suit, son expression de visage change d'un coup, qu'il en abat deux et qu'il se barre, il y a un côté très très ambigu, parce qu'on passe d'un stade où, bien sûr, la tension est énorme, parce qu'il est question d'une roulette russe, et en même temps, le Michael Cimino se permet de faire rire tous ces personnages, alors bien sûr rire nerveux, mais il n'empêche que c'est un rire quand même. Il y a un côté un peu... ça te place les personnages sur un plan à peu près similaire les uns par rapport aux autres, et subitement ce lien est cassé, et pour moi le côté ambigu du soldat qui sait pas trop pourquoi il se bat et contre qui il se bat, et qui finalement ressemble un peu au mec d'en face, etc., pour moi dans cette scène il est complètement représenté. Puis bon, après évidemment le fait qu'elle ressurvienne et que là pour le coup la deuxième roulette russe, elle fait à la fois écho à la première et en même temps elle est différente parce que les personnages sont plus liés entre eux pendant la deuxième roulette russe. Bon, bien sûr, De Niro et Christopher Walken se comprennent plus. Ils sont, pour le coup, ils sont face à face, réellement face à face. Ils sont plus l'un avec l'autre. Et les Vietnamiens qui sont autour sont, de mémoire, parce que j'ai vu il y a quelques années ce film, mais sont un peu moins amicaux. D'un coup, là, pour moi, la deuxième roulette russe marque vraiment la cassure qui s'est faite, la fracture. Et de ce point de vue-là, pour moi, ça reprend complètement ce que tu disais, en fait. Ce côté... Ce côté un peu, comment dire, aléatoire quasiment des choses.
Mais juste sur... Enfin, je suis totalement d'accord avec ton analyse sur les deux roulettes russes. Et justement, il y a un truc qui me... Enfin, je sais pas si c'est la surinterprétation, mais la première roulette russe, c'est quelque chose d'assez spontané, finalement. Enfin, c'est dans un contexte vraiment... c'est la guerre, etc. Et c'est assez... enfin, c'est dans le feu de l'action, on va dire. Alors que la deuxième, c'est vrai... Enfin, il y a toute une organisation quand même, c'est un truc institutionnalisé, et donc ça marque bien aussi une sorte de finalement de banalisation de l'horreur et de finalement pour moi les scènes de roulette russe dans The Deer Hunter, c'est vraiment les moments un peu métaphoriques de l'horreur de la guerre.
Et ça me fait penser, parce que c'est un thème qu'on n'a pas encore abordé, bon, peut-être pour faire une transition par rapport à la deuxième roulette russe, c'est un thème aussi qui, à mon avis, est intimement lié à la perception des Américains sur le Vietnam, c'est la prégnance de la drogue, qu'on n'a pas du tout abordé pour le moment, parce qu'il est bien question de drogue dans la deuxième roulette russe, notamment Christopher Walken, qui, je crois, est devenu héroïnomane. Et de ce point de vue-là, le Vietnam est aussi une espèce de trip sous drogue, et de ce point de vue là c'est aussi Apocalypse Now qui reprend complètement cette esthétique du trip. Et de manière générale, le lien entre le Vietnam et les États-Unis paradoxalement paraît presque vivre à travers la drogue. Et je vais prendre un exemple d'un film qui n'a pas du tout pour le sujet le Vietnam, mais qui traite de ce trafic en réalité entre le Vietnam et les États-Unis, c'est American Gangster de Ridley Scott, qui donc trace ce lien de trafiquants et comme ça de l'armée américaine qui s'avilit en participant à un trafic de drogue entre le Vietnam et les États-Unis. Et de ce point de vue-là, il y a aussi quelque chose d'intéressant du point de vue sociétal, on pourrait dire. C'est que on voit les films qui traitent de la période hippie, qui est donc contemporaine du Vietnam, sont des films qui ont tendance à placer le trip d'une manière plutôt positive. Enfin, je pense par exemple dans Easy Rider, par exemple, la scène du trip dans le cimetière. Et... Alors que le Vietnam, c'est la façon de la drogue. Enfin, le trip au Vietnam est vraiment quelque chose de l'ordre de la descente aux enfers. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'on en parle depuis le début. Le titre français de Voyage au bout de l'enfer, du coup, est,
et à mon sens bien mieux trouvé que The Deer Hunter, qui bon, évidemment fait écho à certaines scènes du film, mais qui paraît totalement anecdotique. Ouais. Et je pense que ouais, le côté drogue est quelque chose qui rajoute vraiment à l'enfer du Vietnam. C'est que non seulement le Vietnam, c'est la violence, mais c'est aussi le délire, c'est aussi la perte de repères.
C'est le climat SS, en fait.
C'est ça.
En fait, ça pousse... ouais, après la guerre en général, comme je le disais avec le petit parallèle avec Voyage au bout de la nuit, mais dans l'absolu, c'est un sacré révélateur, un catalyseur de toutes les bassesses de l'humanité. Donc voilà, ça, c'est intéressant. Après, il y a des trucs dans The Deer Hunter aussi qui sont pas mal, c'est avec Meryl Streep. Enfin, genre le lien un peu qui... elle joue un peu le rôle de lien avec la société américaine, même pendant le Vietnam et tout. Bon, après, on s'en fout.
Très bien, ouais.
Mais c'est la meuf de De Niro, c'est ça, dans The Deer Hunter, je me souviens plus du tout. Je crois que c'est la meuf de De Niro, en tout cas.
Ouais, je crois, oui, je crois. Mais...
Je crois que c'est...
Je crois que j'étais en seconde.
Tu pointes un point intéressant, parce que bon... c'est finalement assez inhérent aux films de guerre en général, mais le monde du Vietnam est un monde dont les femmes sont complètement absentes aussi. Ou en tout cas, malheureusement, les Vietnamiennes y sont présentes, mais pour des raisons qu'on n'aimerait pas, qu'on n'aime pas trop mettre en avant. Et de ce point de vue-là, il y a aussi... Non, mais là, pour le coup, je pense que je m'associe au politiquement correct sur ma droite. Et de ce point de vue-là, il y a pour moi un renversement aussi d'un certain rapport à la virilité, parce que du coup on va dire que le Vietnam est une affaire d'hommes, et on l'a vu, et c'est pour ça, je pense que c'est un point aussi qui ressort, qu'on aurait pu sortir au moment où on parlait un peu du côté adolescent voire enfantin des gens qui sont au Vietnam, c'est que contrairement à ce qui peut être véhiculé dans la représentation de l'armée dans les films qui précèdent le Vietnam, par exemple dans un film comme Le jour le plus long qui est sorti en 62, donc juste avant le Vietnam, c'est que là, l'armée n'est plus du tout un mode d'affirmation pour les... Enfin, en tout cas, un mode qui permet aux adolescents de devenir des hommes, entre guillemets, des hommes, des vrais, des bons Américains qui défouraillent, si on met de côté Rambo. Je crois que de toute façon, tout ce qu'on dit nécessite de mettre de côté Rambo. qui est une espèce d'ovni, ovni pur du Vietnam. Mais en tout cas, il y a ce côté destructeur... qui pour moi est vraiment très visible dans Full Metal Jacket en particulier. C'est-à-dire qu'à quel moment ces gens-là deviennent des hommes, l'expérience qu'ils ont de leur humanité est très limitée finalement. On les empêche de grandir et on les met face à un rapport à la virilité qui est très particulier. Et pour continuer là-dessus, finalement, un autre film dans lequel le rapport à la virilité est vraiment questionné, et on en a déjà parlé, c'est Taxi Driver. Le personnage de Travis Bickle, dans la relation ambiguë qu'il entretient avec cette femme qui travaille pour la campagne du candidat à la présidentielle, d'ailleurs que Travis Bickle veut assassiner, il témoigne bien le fait que le mec est pas serein par rapport à son existence, etc., et que le Vietnam a un peu brisé son rapport à sa virilité, etc. Et je pense que les scènes où on le voit en train de se préparer son système avec son flingue, quand il flexe un peu devant sa glace, un peu avant qu'il fasse You Talking to Me, la fameuse scène. Bah de ce point de vue-là, c'est paradoxal, parce qu'on pense vraiment, à la violence et aux armes aux États-Unis comme un mode d'expression de la force dans les films au cinéma et aux États-Unis en particulier. Enfin, mais il y a plus de bon. Là, il y a deux Gus qui sont en train de faire les couillons là en face de moi là.
Non, continue.
Mais au Vietnam, il n'y a pas de John Wayne. Il n'y a pas comme ça d'acteur qui va incarner. À part Rambo. C'est vrai. Mais finalement, je veux bien faire une petite parenthèse sur Rambo. Rambo, c'est Sylvester Stallone au Vietnam, hein. C'est pas Rambo. Hein.
Non, mais c'est le moment d'écouter monsieur.
Bien au contraire, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu racontes, Éloi. Au Vietnam, il n'y a pas de John Wayne, il n'y a que des gamins transformés en machines à tuer ou des Rambo. Mais Rambo n'est pas John Wayne. Pourquoi cela ? Dans la mesure où John Wayne, c'est un personnage avec une humanité. C'est un personnage classique américain du cinéma fordien qui est le bon américain qui apporte non seulement des valeurs, mais aussi l'ordre, le calme, et tout simplement restaure en fait, restaure la civilisation qui a pu être perdue dans un Far West, peut-être dévastée par des bandes sauvages d'Indiens. Voilà. En revanche, qu'est-ce que Rambo ? Ce n'est pas quelqu'un qui apporte la civilisation. Il n'apporte aucune valeur. Non, Rambo est littéralement ce que Full Metal Jacket veut faire de ses enfants au début du film. Une machine à tuer. Rambo, c'est quelqu'un, c'est un béret vert, il me semble, dans le 1. C'est tout simplement quelqu'un qui a été entraîné à survivre dans la jungle et à éradiquer ses ennemis, coûte que coûte, sous quelconque manière. Donc, tu as bien raison dans la mesure où il n'y a pas de héros vraiment à glorifier, parce que Rambo n'est pas un héros glorifié dans Rambo 1. Je précise cela parce que on a souvent l'image de Rambo comme un expendable. Mais pas du tout, loin de là. En réalité, Rambo pâtit de la réalité de la réputation, pas de la réalité, de ses suites. Or, Rambo 1 est un chef-d'œuvre qui ne glorifie absolument pas le soldat américain, non. Ils montrent juste que c'est une machine à tuer. Il a été conditionné dans cet univers-là. Et de ce fait, quand il revient dans son pays, ce pays n'est plus le même et ce pays ne l'accueille plus. Et donc, forcément, il est déboussolé.
Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, et pour élargir un peu et pas se restreindre à Rambo, du coup, on a quand même un truc qui est assez intéressant dans les films sur la guerre du Vietnam. C'est un peu les considérations morales qu'on pourrait en retirer si on veut entrer dans une approche plus philosophique. Et en gros, c'est simplement qu'on est face à une disparition, ou en tout cas une je ne sais pas comment dire, mais la frontière entre le bien et le mal devient de plus en plus floue. Et là où dans la construction de la mythologie américaine, on a souvent un manichéisme entre le gentil héros américain qui combat les forces du mal, souvent extérieures, dans beaucoup de films, et qui encore aujourd'hui, il y a encore ce truc-là dans pas mal de films américains. Là, sur les films de la guerre du Vietnam, on a quand même des héros qui ne sont pas vraiment des héros, enfin des protagonistes en tout cas, qui se retrouvent à agir peut-être de manière immorale ou amorale. Donc voilà, c'était juste pour peut-être lancer un débat un peu plus philosophique.
Ouais, je suis assez d'accord là-dessus en général. Enfin, effectivement, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les soldats de la guerre du Vietnam ne sont animés par aucun idéal, sont lancés dans l'inconnu total, avec pour seule préparation, la compréhension d'une discipline militaire, encore la compréhension imparfaite, parce qu'on voit que finalement, cette discipline qu'on essaie de leur inculquer ne les imprègne pas vraiment. Enfin, en tout cas, c'est ce que tente de montrer Full Metal Jacket. Et donc, effectivement, ils n'ont pas vraiment de considération morale à l'esprit, en tout cas, parce que on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment là complètement contre leur gré. On ne peut pas dire qu'il y ait des espèces de soldats militants qui seraient à moitié soldats, mais bon, tout de même, qui se révolteraient contre leur hiérarchie ou que sais-je encore. Mais on ne peut pas dire non plus qu'ils soient là avec, comme je pouvais un peu le dire tout à l'heure, avec le sentiment de défendre une cause juste ou que sais-je encore, d'agir pour une forme de bien. Donc il n'y a ni le sentiment de faire le mal, ni le sentiment de faire le bien. Il y a juste le sentiment d'être dans quelque chose d'assez déstabilisant et qui peu à peu fait perdre tout repère, et notamment tout repère moral. Et là encore, moi, j'en reviens toujours à Apocalypse Now, je suis désolé, mais là, je trouve encore une fois où c'est le plus marquant, c'est Apocalypse Now, où plus on avance, plus justement cette espèce de mythe du héros américain, qui au début était juste montré de manière satirique, disparaît. Au début, on prend en compte des catégories morales, mais en montrant que le rapport qu'entretenaient les soldats américains avec elles était totalement absurde et ridicule. Et notamment, l'état-major américain représenté par Robert Duvall, qui lui, en fait, c'est un peu lui, le John Wayne du Vietnam, sauf que c'est un John Wayne totalement ridicule dans le cadre du film, quoi. Il n'est pas du tout glorifié. Mais plus on avance, plus l'action devient moins limpide. C'est-à-dire que cette première scène de la chevauchée du Valkyrie est quand même encore relativement classique dans la forme. Enfin, je veux dire, le déroulement de l'action, en tout cas, est clairement lisible. On comprend, bon, c'est des hélicoptères qui viennent, qui incendient, bombardent un village, tout le monde meurt, et derrière des soldats font du surf. Bon, d'accord, très bien, c'est compréhensible. Mais plus on avance, plus on a cette espèce de scène presque hypnotisante, souvent parce qu'elle se déroule de nuit aussi, mais où il y a des coups de feu, des flashs lumineux, les soldats perdus au milieu, on ne sait pas très bien qui tire sur qui, on ne sait même pas si on tire sur quelqu'un d'ailleurs, c'est pas très clair parfois. Et donc là, on est en dehors de tout ça, parce que finalement, il n'y a jamais cette espèce de confrontation directe face à l'autre qui permettrait de revenir à une considération morale. On est presque perdu avec soi-même, en fait, tout le temps. Et c'est le seul vrai rapport qu'on a, c'est un rapport à soi, mais avec un soi qu'on voit changer, qu'on ne comprend plus très bien. Et donc, par ce rapport-là, c'est presque un cercle vicieux. Comme on ne se comprend plus très bien soi-même, on plonge encore un peu plus dans cette folie. Et pour moi, le sommet de cet amoralisme, c'est la confrontation entre le héros d'Apocalypse Now et le personnage de Marlon Brando à la fin, qui pour moi incarne totalement cette espèce de ce dépassement de la morale, alors qu'il est devenu un espèce de gourou au cœur du Vietnam. Et il s'est totalement détaché presque de sa civilisation de base. Et si on estime que la morale est l'un des fondements, le fait d'avoir une morale, c'est souvent un fondement civilisationnel, souvent parce qu'aussi c'est un héritage religieux et que les religions sont quand même souvent pas étrangères au fondement d'une civilisation, on peut dire que... André Malraux le disait. Bon, après, voilà, le name dropping, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, André Malraux était quand même... un mec pas dégueulasse, pour être un peu plus trivial. Pour moi, ça incarne totalement ça, effectivement, ce que tu dis, Godefroy, le fait que, en dernière instance, en tout cas, quand on s'enfonce littéralement dans le conflit, on perd un peu tout repère moral, que ce soit une bonne chose ou pas, d'ailleurs.
Et oui, pour ajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit, et j'avais déjà parlé du choix de casting de Charlie Sheen tout à l'heure, le choix de casting de Marlon Brando aussi, à mon avis, est assez significatif, parce que Marlon Brando, dans le cinéma américain, il représente, à travers les films d'Elia Kazan, notamment, donc sur les quais, et puis Un tramway nommé Désir, exactement, il représente une certaine forme de rêve américain, mais en tout cas de symbole américain très profond. Dans Un tramway nommé Désir, c'est l'érotisme de l'homme américain. Dans Sur les quais, c'est l'homme américain face aux injustices. Et de ce point de vue-là, le fait que sa carrière a été ressuscitée avec Apocalypse Now, et Le Parrain aussi d'ailleurs, mais c'est ce renversement des codes, et ça complète ce qui a été dit sur le renversement, ou en tout cas la perte de repères moraux. C'est que des acteurs comme ça qu'on n'aurait pas forcément imaginé dans un premier temps de leur carrière capables de jouer des personnages aussi ambigus et aussi... Je préfère amoureux que immoraux parce que finalement, voilà, y a la perte de repères est complète. Je trouve que c'est assez significatif et assez intéressant. Et ça reprend tout ce qui vient d'être dit. Et de ce point de vue-là, ça rend les choses... ça rend les choses vraiment, vraiment assez puissantes, quoi, assez profondes. Et de ce point de vue-là, il y a ce côté très intéressant de voir ce qu'on peut faire avec le mythe américain à travers le Vietnam, parce que c'est vraiment une remise en question quasiment de la manifeste destinée, d'une certaine manière. Enfin, les Américains triomphent plus, et pour la première fois un peu de leur histoire, ils paraissent perdre leur cap, quoi. Et ça, c'est un point vraiment intéressant, enfin, je trouve, quoi. Donc je pense qu'après avoir abordé tous ces points, on peut en arriver à une forme de conclusion par rapport à tout ce qui a été dit. Si vous avez un mot à ajouter les uns et les autres.
Ok, donc juste en un mot, et je vais pas tenir un propos révolutionnaire, mais juste pour dire qu'en gros, comme je l'ai dit au début, et voilà, et je pense qu'il fallait en parler. 2020 nous a offert deux films qui traitent plus ou moins de la guerre du Vietnam, et je pense que dans les années à venir, et notamment pourquoi pas une série, etc., je pense que ça reste. Je pense pas qu'il y ait eu d'événements historiques aussi forts depuis qui offrent un terreau aussi fertile pour développer une œuvre cinématographique ou sérielle dessus. Donc voilà, c'est juste pour. Je pense qu'on n'a pas fini de voir des œuvres sur la guerre du Vietnam, et y a encore pas mal de choses intéressantes à en tirer qui n'ont peut-être pas encore été faites. Notamment du fait de la période assez restreinte où il y a eu cette émulation sur la guerre du Vietnam. Et je laisse la parole à Sam pour peut-être le mot de la fin.
Ouais, voilà.
Ou Mamoun, je sais pas.
Ou Mamoun pour... Non, voilà, donc... Donc, merci à tous pour avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a un peu intéressé et donné envie de voir certains de ces films qui sont quand même en dehors du siècle qu'ils traitent, objectivement des chefs-d'œuvre absolus. Et donc, si on devait aller peut-être réduire à trois tous les films qu'on a parlé, je pense que Apocalypse Now, Full Metal Jacket et Voyage au bout de l'enfer seraient sûrement les trois qu'on conseillerait absolument avant les autres, même si il y en a plein d'autres qui sont intéressants et on en a parlé. Donc voilà, je viens là-dessus. Mahmoud, un dernier mot?
Oui, en tout cas, on espère très vite voir une série du niveau de L'Enfer et du Devoir portant sur la guerre du Vietnam, parce que c'est important. Voilà. Et nous tenons à rappeler que ce podcast est enregistré dans le respect des règles barrières